Bonjour, vous écoutez Radio FM Plus 91 FM. Depuis quelques années, quand le festival Texte en cours arrive en ville, comme le chante Johnny Roquefort et ses étoiles noires, Radio FM Plus a pris l'habitude de donner la parole aux autrices et auteurs de sa sélection. Et le fil du fer tend le micro à qui, parmi ses auteurs et autrices, peuvent venir y parler dedans. Aujourd'hui, les invités sont deux autrices, Marine Bedon et Anouche Paré. Marine Bedon, Texte en cours, a fait entendre un florilège de quatre de vos textes. Anouche Paré, Texte en cours, a fait découvrir à son public votre pièce Usure au pluriel. Bonjour Anouche, bonjour Marine.
Bonjour.
Bonjour.
Par ordre alphabétique des prénoms, c'est facile ça. Anouche, Marine, je me permets de vous laisser vous présenter aux auditeurs du fil du fer. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et que s'est-il passé à Texte en cours en novembre dernier pour vous?
Ça va être retour vers le futur.
Parce que nous enregistrons le 29 novembre cette émission. Mais que s'est-il passé? Ou que se passera-t-il?
Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le train... Pour venir jusqu'à Montpellier, je vis en Bretagne. C'est là-bas que j'écris. Ce n'est pas uniquement là-bas que je travaille. Je travaille un petit peu partout en France. Quand je dis je travaille, c'est que j'ai plusieurs occupations. Je suis metteur en scène. J'ai beaucoup joué. Maintenant, je fais beaucoup plus des performances que du jeu, vraiment. Et puis j'écris. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je vis en pleine nature, que j'ai des poules, un chat.
Et votre texte?
Et mon texte, Usure. Alors mon texte, Usure, pour l'instant, ce sont des petits morceaux de tissu, c'est-à-dire des petits morceaux de texte, qui ne sont pas encore accommodés les uns aux autres. Il y en a trois qui sont parvenus jusqu'à Texte en cours. Et je suis ravie d'ailleurs qu'ils aient été sélectionnés, parce que ça va me forcer à tisser les autres.
Marine?
Oui, donc moi je suis Marine, je suis autrice, je suis aussi comédienne et par ailleurs j'enseigne aussi la philosophie. Je suis maintenant à Toulouse, j'ai habité un petit peu Montpellier, mais je viens de la plaine du Forêt, donc pas très loin de Saint-Étienne. Quant à texte en cours, moi j'avais un texte qui avait été sélectionné il y a 2 ans, qui s'appelle « Retour à X », que j'avais eu la joie d'entendre dans la bouche des comédiens et des comédiennes montpelliérains et montpelliéraines cette occasion. Enfin, de texte en cours 2022. Et donc cette année, je suis venue parce que un florilège, enfin des extraits en fait de mes 4 textes ont été lus et travaillés par un atelier de théâtre du centre culturel de l'université Paul Valéry, dirigé par Jules Tricard. Et donc c'était une vraie joie pour moi d'écouter ces apprentis comédiens-comédiennes se mettre en bouche mes textes.
Est-ce que vous pourriez donner le titre de vos 4 pièces? Je les aime tous, mais il y en a un que j'aime particulièrement.
Est-ce que ce serait pas « On a égorgé les lapins » ?
Oh, c'est super.
Ça, c'était mon premier texte, « On a égorgé les lapins ». Ensuite, « Retour à X », « Reçu », mon 3e texte. Et le dernier, c'est « Les cartes postales, tableau d'une vie paysanne ».
Le fil du fer, c'est donner la possibilité à ses invités de porter témoignage de leur action, de leur projet, des formations et des chemins pris pour arriver où ils en sont. Et là où vous en êtes, c'est que vous êtes actuellement et depuis quelques années, comme vous l'avez dit, deux autrices pour le théâtre. Alors, que s'est-il passé pour que vous décidiez un jour de prendre publiquement et durablement la parole par texte de théâtre interposé? Oh, vous y voyez les têtes.
Alors, comme j'ai pu essayer de trouver une formule pour dire j'écris pour et par les autres, c'est vraiment, moi c'est venu du plateau. C'est venu de l'usage du plateau. J'écrivais, mais j'écrivais comme d'autres gens, et comme j'espère beaucoup de gens écrivent, font des listes, font des vœux, écrivent des ex-voto, enfin voilà, écrivent. Mais c'est vraiment venu d'un appel de comédiens et de comédiennes qui m'ont demandé d'écrire pour le plateau. Donc là, il ne s'agissait pas de légitimité d'autrice ou pas. J'écris pour des gens, pour une mise en voix, une prise de parole tout de suite. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à écrire d'autres petites formes vraiment théâtrales, comme sous forme de commande. Puis, c'est trouvé qu'à un moment donné, moi, je me suis retrouvée sans travail pendant 1 an, pour des raisons... sans travail, sans lieu vraiment de travail, de mise en scène, de résidence, dans un à ce moment-là, j'étais dans une scène nationale juste avant. J'étais artiste associée, donc je travaillais à la fois dans la scène nationale, en prison, dans les écoles, etc. Donc j'avais une activité. Puis pendant un an, je me suis retrouvée sans rien. Et là, je me suis dit, allez, hop, je me mets à profit, je vais écrire des vraies pièces de théâtre. En fait, la principale, elle a jamais devenu une pièce de théâtre, c'est devenu une pièce radiophonique qui a été réalisée par France Culture plus tard. Mais c'était une façon un peu de légitimer, et j'ai bien senti, et je pense que ça l'a fait, de légitimer la prise de parole. C'est-à-dire qu'en fait, je le faisais, naturellement, depuis toujours, en fait. Mais là, le fait que ce soit reçu dans des comités de lecture, que ce soit publié aussi, la publication est venue très vite, très tard. Et tant mieux, parce que quand j'étais petite, je me disais, un jour je serai écrivain, mais quand je serai vieille. Donc en fait, ça a repoussé vraiment. Et la publication est venue assez tard. Après, le désir d'écrire, je pense qu'il était... il n'y a pas de désir, c'est que j'écrivais peut-être pour inscrire des choses, peut-être par commodité avec le temps, pour fixer des choses. Et là, c'est plus du tout dans cet esprit-là que j'écris. Ça m'a bien libérée, en fait. Hein. J'écris vraiment pour que des gens portent mon bruit. Du bruit, voilà.
Et pour vous, Marie?
De la même façon, je pense que j'ai un peu toujours écrit aussi. Et j'écrivais davantage de la poésie, mais pour moi, qui m'arrivait, toi aussi, ouais, qui m'arrivait de partager à l'occasion de, avec mes sœurs qui sont artistes aussi. Et ma grande sœur est peintre, et on organisait un peu comme ça des vernissages où on avait un travail en commun. J'écrivais à partir de ses tableaux, ou elle composait des tableaux à partir de mes poèmes. Et voilà, donc je lisais mes poèmes à l'occasion de, avec un travail un peu, je sais pas si c'est théâtral, mais en tout cas une mise en voix de mes textes, puisque la poésie, je crois, est quand même un art destiné, enfin une langue destinée à être prononcée, quoi, orale. Et en fait, j'ai commencé une formation de comédienne, donc au cours Florent à Montpellier. Et là, enfin, j'ai toujours écrit donc des poèmes, et j'essayais vaguement d'écrire un roman. Je butais sur un roman avec un personnage qui était une paysanne comme ça, qui s'appelait Annie. Et j'arrivais pas à lui donner vraiment de la substance, de la chair. Et en fait, en commençant l'école de jeu et en rencontrant une comédienne et autrice super qui s'appelle Marion Aubert, ça a libéré quelque chose chez moi. Et en fait, j'ai trouvé, enfin, dans la forme théâtrale, j'ai trouvé vraiment un moyen d'expression et d'écrire cette histoire, celle d'Annie, au travers d'une histoire de lapin égorgé, qui a donné, en fait, enfin, qui a été un peu le point de départ de l'écriture dramatique. Et voilà, c'est un endroit dans lequel c'était beaucoup plus aisé pour moi d'écrire ce que j'avais à écrire que la forme romanesque, qui, en fait, n'a pas été très concluante jusqu'alors, pour l'instant. Après, on verra. J'ai quand même un jour ce fantasme d'écrire un grand roman, sachant que le théâtre n'est pas En attendant mieux, je suis très épanouie, mais je garde quand même cette frustration de ne pas avoir réussi à écrire mon grand roman.
Je rebondis, Anouche, sur le mot que vous avez utilisé, bruit, mon bruit. Est-ce que vous pourriez en dire plus? Et puis, est-ce que ça aussi a résonné chez vous, Marine?
Mon bruit, parce que c'est une écriture qui est sonore, enfin que l'écriture est sonore pour moi. Enfin, c'est toujours une chose qui se porte à voix haute. Et un bruit, pas plus, pas moins qu'un, je sais pas, un ruisseau, par exemple. Tu peux entendre plein de choses quand t'écoutes un ruisseau. Enfin, tu peux entendre des chansons, ta chanson, une autre chanson. C'est pas plus ou pas moins que ça. C'est dans le grand bruit du monde. Il y a, ce bruit-là. Je dirais pas ma voix, parce que je sais pas grand-chose là-dessus.
Est-ce que tu dirais ta langue?
Mes langues.
Tes langues.
Ouais. Je dirais mes langues. Avec des langues d'emprunt aussi. C'est pour ça que, par exemple, là, quand tu disais, tu as commencé, moi aussi, la poésie, c'est vraiment... Et c'est d'ailleurs la seule chose que je voulais voir un jour éditée, comme s'il fallait... Je voulais que ça, ce soit en partage, c'est vraiment la chose importante. Ça va se faire cette année, ça sera la première fois, et je suis juste... Là, c'était le grand cadeau. Mais je pense que la langue poétique a quelque chose à voir avec le bruit. C'est-à-dire que je n'ai pas tout fixé sur ce qu'on appellerait du sens. Que le sens vient de là aussi, que c'est un partage, quelque chose qui s'étire. Et quand tu dis tout à l'heure, tu disais, je suis arrivée par le jeu à faire prendre corps à mon personnage Dani. Je vois plus de différence, moi, entre l'écriture théâtrale, poésie, roman. D'abord parce que je pense que le roman est arrivé à un épuisement, à une chose où il y a une forme ressassée. Enfin, si on prend le grand roman, on va prendre le 19e, mais après il y a d'autres formes de romans qui sont formidables. Hein. Il y en a que je peux encore lire quelques romans. Mais je pense qu'il y a plus de, il y a, il y a un croisé total de tout ça. Enfin, il y a plus, je sais pas qu'est-ce qui est spécifique à la langue de théâtre, sauf qu'on se dit, ça va être proféré, ça va être, ça va prendre la bouche de quelqu'un va le prendre et va s'en saisir. Enfin, voilà.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis ça rejoint un petit peu la question que tu m'avais posée, Lionel, à la fin de la lecture par l'atelier de Paul Valéry. C'est, enfin, je sais pas si j'avais bien compris la question, on en a parlé un petit peu avec Pauline Picot après. Cette idée qu'il y a aussi beaucoup de formes théâtrales qui vont vers la narration. Il y a aussi pas mal de choses comme ça qu'on observe. Et c'est le cas, moi, de mes dernières pièces qui vont. Il y a une évolution dans la langue où ça va peut-être vers davantage de. Enfin, en tout cas, de place laissée à la narration. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que ce qui fait théâtre, en fait, c'est que c'est des voix destinées à être partagées. Voilà. C'est pas forcément dans la construction ou dans la.
Non, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a l'usage du récit dans la dramaturgie contemporaine, on va le dire. Par exemple, dans Usure, j'ai tenté une chose qui peut-être, je pense qu'il a été déjà faite, mais c'est-à-dire, souvent, moi, mes textes, il n'y a pas de didascalie du tout. Parce que je me dis, tout doit tenir dans le dire, on doit imaginer le faire. Si un personnage dit aïe, c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose avant, je ne sais quoi. C'est au comédien ou à la comédienne de le saisir et de trouver. Mais là, j'ai tenté d'avoir des didascalies au contraire très marquées et de les inscrire complètement dans l'écriture. Et j'ai vraiment hâte à savoir comment un groupe de personnes, de comédiens, de comédiennes va s'en saisir. J'ai hâte parce que j'espère que c'est d'une grande richesse pour eux. J'espère que c'est pas une chose contraignante ou une contrainte qui permet d'exploser surtout.
Donc c'est des didascalies qui ne sont pas destinées à être prononcées sur le plateau, mais qui sont vraiment à destination des comédiens, des comédiennes.
Non, qui sont destinées, je ne sais pas, écrites comme du texte, à dire, mais après...
Advienne que pourra.
Voilà.
Si je vous dis écrire sur le plateau ou pour le plateau, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, Marie?
Alors moi, à l'origine, ce n'est pas quelque chose que je connaissais vraiment, au sens où... j'écrivais un petit peu dans ma maison, dans le train, tout ça. Et en fait, j'ai eu une commande d'écriture par Julien Bouffier autour d'une réécriture des Enfants du Paradis. Et c'était une collaboration super excitante et vraiment vraiment passionnante où, pour le coup, j'ai accompagné en fait, pendant la création des jeunes. C'était le spectacle de sortie d'école des cours Florent. Et donc là, j'ai vraiment écrit... Alors, je sais pas, c'est peut-être pas vraiment ça la question, mais avec la chose en train de se faire, donc il y avait vraiment une commande à un moment, un spectacle qui devait être joué, etc. Et donc, j'ai écrit à partir de ce qui se passait au plateau, et j'avais une commande où le soir je devais écrire, on éprouvait ça le lendemain, etc. Donc vraiment, c'était aller-retour qui m'a beaucoup appris, beaucoup déplacé, et c'était vraiment passionnant. Voilà, je serais curieuse de renouveler l'expérience sur un autre, une autre occasion. Mais sinon c'était, enfin, quand j'écris, moi je suis pas metteuse en scène, j'ai pas cette formation là et je pense pas vraiment pas en avoir forcément les qualités non plus. Et donc quand j'écris, j'ai pas forcément d'image du plateau.
Alors moi j'ai aucune image du plateau quand j'écris.
Non. Ta connaissance.
Déjà j'ai pas de formation puisque à mon époque il n'y avait pas de formation d'être en scène, donc c'est vraiment une chose que j'ai appris au fur et à mesure. Je suis surtout metteuse en jeu, j'allais dire, parce que c'est surtout la direction de comédien sur laquelle je me suis vraiment, vraiment, vraiment perfectionnée au fil des ans, sur la transmission, sur faire naître des comédiens, ça c'est une passion, dans tout, amateur comme professionnel, vraiment c'est sans distinction, que des gens aient envie de prendre la parole et la place, et leur place, et l'espace, et oui. Mais non, j'ai pas forcément d'image de plateau, ça me restreindrait bien plus, trop. Ça serait, ou alors faudrait que j'écrive pour, à l'intérieur du théâtre. Enfin, mais c'est autre chose. Ça s'est fait mille fois, écrire le théâtre dans le théâtre. Bon. Mais par contre, comme toi, l'expérience d'aller-retour, moi, c'est vraiment la plus belle des expériences. L'expérience d'aller-retour, d'écriture plateau et moi de faire mémoire ou d'inciter autre chose et de proposer un texte qui, à nouveau, va être travaillé, je pense que c'est une des plus grandes richesses, ouais.
Que mûrissez-vous en vous avant de vous mettre à écrire, Anouche? Un temps de réflexion?
La confiance. Je vais mûrir ma confiance. Est-ce que je mûris en moi? Ça dépend des projets, en fait. Là, je suis sur un énorme projet, enfin énorme, parce que j'ai eu une aide à la création du Centre National du Livre, donc j'estime que c'est énorme. C'est énorme aussi parce qu'il y a 10 ans que je vais écrire ce texte, hein, qu'a priori, comme beaucoup, on se dit, oh, malheureusement, c'est qu'il est encore, actif, alors qu'on aimerait bien que des fois des textes soient devenus inoffensifs, ou plus actifs parce qu'on aurait pu à traiter des problèmes dont ils traitent. Et là, pour celui-là, je me suis documentée énormément. Je suis allée, il y a toute une partie qui est en Grèce, je suis allée en Grèce à l'endroit particulier où je devais... Voilà. Mais sinon, je mûris surtout, oui, j'essaie de mûrir de la confiance, je vais dire ça, la confiance, dans tous les sens du terme, avec les autres, pour moi, voilà, une espèce d'endroit de calme et de confiance. Mmh. Même si je peux écrire dans un café, dans un endroit agité, hein.
Marine.
Bah en fait, je pense que c'est, je sais pas, j'arrive pas vraiment à répondre à la question, mais peut-être que c'est la même chose pour toi, Anouk. Mais enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'idée d'écrire un texte, et il faut que je prépare pour l'écrire. C'est-à-dire, je commence le texte. Il y a des premiers mots qui sont jetés. Je commence à comprendre ce que j'aurais envie d'écrire, et ensuite le texte fait un chemin à l'intérieur. Et donc, il y a d'abord tout ce moment-là, c'est le texte qui se mûrit, en fait, d'une certaine façon. Et sans doute, après, il y aura un moment de recherche a posteriori, mais en tout cas, il n'y a rien. Ça se passe en nous, je crois, sans qu'on ait vraiment la conscience claire de ce qui se passe. Et donc, explicitement et volontairement, je ne mûris rien, mais ça mûrit.
Voilà. C'est ça, ça écrit même ça des fois.
Ouais, c'est ça.
Et des fois, même, ça m'est arrivé de laisser tomber le début de ce que j'avais écrit. C'était mon point de départ, j'ai commencé de là, et des fois ça m'est arrivé de laisser tomber comme je sais pas, un lézard laisserait tomber sa queue pour en laisser pousser une autre derrière. Parfois il est arrivé ça. Et puis l'autre chose quand même, c'est que c'est souvent les autres qui m'expliquent mes textes. C'est eux qui savent ce que je suis en train d'écrire.
Nous arrivons au moment de la pause musicale, et pour cette pause musicale, c'est le groupe Within Temptation, oh je le dis bien, Sinead, musique. Vous écoutez Radio FM Plus, 91 FM, j'adore Chined, Anouche Paré et Marine Bedon sont au micro du Fil du Fer, spécial festival texte en cours. Toutes les deux sont autrices de théâtre et toutes les deux se découvrent à vous, chers auditeurs, auditrices, ainsi qu'à l'une et l'autre mutuellement. Écrire pour la scène, avec une mise en scène, des corps et des voix qui jouent, est-ce aussi une façon d'échapper ou de contourner l'impossibilité à dire et exprimer exactement, directement l'intime, le spirituel et le mystère, comme semble être seul capable à mes yeux la musique et la danse? Autrement dit, quel est votre rapport avec le poids, la contrainte, la limite des mots? Là aussi, si vous voyez les visages, on dirait une interrogation de...
J'essaie de comprendre.
Les mots, c'est difficile.
Si j'avais la prétention d'avoir les mots justes, ce serait difficile.
C'est quelque chose que... Je crois que c'est dans Retour à X où ça revient souvent, il est si difficile de parler. Et en même temps, nous, c'est notre travail, a priori, les mots. Et on parle tout le temps, déjà. Et en plus, c'est notre travail, les mots. Donc, il y a tout ce que les mots laissent entendre. Des fois, c'est une formule qui peut être ramassée, mais qui donne à entendre plein de choses. J'ai beaucoup aimé hier, dans le texte de Gala, cette phrase qui dit « l'hiver d'où je parle ». Cette phrase poétique, magnifique, ça dit plein de choses. Il y a des phrases comme ça, les mots, bon, pour moi, ça ouvre beaucoup. Ça peut toucher, enfin, tu parles de la justesse, ça peut arriver quand même à toucher juste sans forcément que les mots désignent le réel tel quel.
Mais sans vouloir. Cas,
sans vouloir, peut-être, oui. Ouais. C'est encore une fois quelque chose qui se fait sans qu'on en soit vraiment volontairement les auteurs et les autrices. Enfin, on reste quand même auteurs et autrices, mais pas forcément pleinement en possession de ce qu'on fait, quoi.
Non, je crois qu'il y a une grande part de... Pour l'auditeur ou le spectateur, il a une grande part aussi. Énorme part. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu donnes un plat et c'est l'autre qui a le goût ou pas et qui va ressentir les ingrédients ou pas et qui va se faire des... Enfin, j'estime qu'il y a une grande part pour la personne qui entend ou qui... Déjà pour la personne qui profère, qui sera pas moi, et ensuite la personne qui entend et qui s'en saisit. C'était quoi la question?
juste on dit parfois, certains poètes disent que voilà, comparé à la musique vient directement au cœur. Les mots, ils ont un poids, ils ont une histoire, ils ont.
Oui, alors pour ça peut-être je parlais de bruit tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, ils ont un poids, ils ont une histoire, ils peuvent être galvaudés. Au moment où on les reçoit ou au moment où on les prononce, on peut les déplacer, on peut s'en amuser, enfin tout ça. Mais il y a aussi le cliquetis des mots, le grouillement des mots, et qui pour moi se rapproche de la musique. Mais c'est surtout quand on a le sentiment d'écrire soi-même dans une langue étrangère. Ça, c'est agréable, je trouve, de se dire « Hey, c'est moi qui ai écrit, je ne comprends pas vraiment ce que je viens d'écrire. » Et quand on a le sentiment de la langue étrangère, c'est un peu comme on a le sentiment de la musique, en fait.
Mais c'est vrai de prendre aussi les mots, c'est un peu, enfin, dans la poésie, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi, de prendre les mots comme matériaux, vraiment dans leur matérialité aussi, leur sonorité.
Marine, vous avez étudié l'école normale supérieure, normale supérieure, je bafouille, de Lyon. Vous êtes agrégée de philosophie, vous donnez cours aux étudiants du département de philosophie à l'université Jean Jaurès à Toulouse. Salut les voisins. Vos cours de cette année 2024-2025 portent sur la notion de nature, sur la philosophie éthique de Spinoza. Cherchez-vous, comme autrice, à vous séparer de votre état de professeur de philosophie?
À cette question, je répondrai oui. Au sens où je ne fais pas de cours, j'espère. Dieu m'en garde, du moins le Dieu immanent de Spinoza. Je ne cherche pas à faire des cours dans mes textes, et certainement pas des cours de philosophie. Après, j'imagine, même si c'est quelque chose que j'essaye... Je cherche pas du tout non plus à philosopher dans mes textes. J'évite au maximum le langage abstrait et conceptuel. Enfin, voilà, ce qui plaît aussi dans le théâtre, c'est la concrétude des termes, enfin des mots qui sont portés par des voix, quoi. Du reste, Je suis formée à la philosophie et la philosophie fait partie de moi. Et donc, j'imagine que ça doit transparaître à un endroit dans mon écriture, mais pas en tout cas la posture du professeur. La philosophie, sans doute, quelque part, mais pas, pas l'enseignante.
Anouche, sur le site en ligne théâtrecontemporain.net, j'ai lu ceci de vous parlant de vous. Et je pense que ces mots feront réagir Marine et vous feront vous reconnaître l'une à l'autre. Je vous cite. Haig, j'espère bien prononcer.
Haig.
Haig. Mon grand-père, arrivé en France, avait coutume, quand les moyens le permettaient, d'amener ses enfants à la Comédie-Française, au paradis, pour qu'ils apprennent parfaitement le français. Ma mère nous a, par la force de l'habitude, et quoique le français soit notre langue non pas maternelle mais natale, amené tout naturellement au paradis très tôt. J'ai prouvé à qui voulait des preuves, en entrant en prépa, que j'étais, entre guillemets, capable de mieux, puis me suis présenté à l'école Charles Dullin, où ma formation de comédienne m'a amené à intégrer rapidement le sens du travail exigeant au plateau, la liberté d'artiste et la notion de collectif. Fin de la citation. Marine, vous avez écrit le texte reçu avec un E à la fin, dont un extrait a été entendu durant le festival Texte en cours 2024. Vous interrogez la situation du transfuge, du transclasse, l'ascenseur social. Anouche, est-ce que cette situation du déplacement des statuts et des corps d'une classe intellectuelle, économique, culturelle à une classe socio-culturelle dite supérieure travaille aussi vos textes en théâtre, en roman ?
Non. Non, parce que moi-même, j'ai pas. C'est une vieille bio, mais elle est toujours active. Enfin, c'est ma vie. Donc, mais jamais eu le sentiment d'être transfuge. Je me suis sentie des fois mal placée, plus pour des choses sociales que culturelles, parce que même si ma maman, qui n'était pas française et que le niveau d'études de mes parents n'était pas un niveau supérieur, c'était des gens. Il y avait des livres chez moi, on peignait chez moi, il y avait de la musique. Donc j'ai pas été privée de quelque chose. L'accès au théâtre est venu par l'école, mais parce que ça se fait parfois comme ça. Et puis c'est là que je me suis trouvée, parce que du coup il y avait un corps aussi. La question du corps, par contre, était importante. Mais je me suis jamais sentie. Je viens de dire, et c'est aussi socialement. Mais c'est quand je faisais mes études. Au théâtre, je n'ai jamais ressenti ce genre de choses là. Je me suis jamais sentie. Oui, il y a la cour des grands, on dit ça, mais ça m'a jamais posé problème, en fait. J'ai jamais eu le sentiment qu'il fallait que j'atteigne quelque chose. Ça aurait fait très plaisir à ma mère que j'entre à la Comédie Française. J'y ai dirigé un comédien, aidé un comédien, donc Pierre Le Calix, un excellent, formidable comédien, à un moment donné, quand il y entrait, parce que c'était un ami et qu'il devait jouer dans une de mes pièces et qu'il rentrait à la Comédie Française, donc il m'a demandé de l'aider. Alors je lui ai dit, voilà, je suis rentrée par la cuisine, je lui ai dit, voilà, à ma mère. Mais non, sinon, c'est pas du tout un sujet. Je pense que d'autres gens sont bien plus capables de s'emparer de ça. Et puis, il n'y a pas une si grande différence. Enfin, je n'ai pas fait de bon. Tout à l'heure, tu parlais, par exemple, de la ruralité, de gens qui vivent vraiment dans la campagne. Et moi, c'est vraiment avec des enfants comme ça que je travaille, là, et des gens en centres sociaux, dans des endroits vraiment, vraiment, vraiment... reculés, qui eux ont la langue française, presque plus, et bretonne en plus souvent, que moi je l'ai eue petite, mais je vois le voyage qu'on fait ensemble. Là oui, je le sens.
Oui, il y a un passage comme ça dans Reçu où le personnage dit, il y a son compagnon qu'elle a rencontré à Normal Sup qui lui dit, t'es plus exotique que les autres filles de Normal qui viennent de Milan, Téhéran ou Beyrouth ou... Mais oui, parce que finalement, la rupture, elle est tellement franche entre la fille de la campagne, du fin fond de la campagne, que en fait, des élites des capitales, même à l'autre bout de la planète, ouais. Presque, c'est intéressant.
Enfin, je n'étais pas dans les élites non plus.
Oui, oui, bien sûr, non, c'est vraiment pour parler du
fossé. Non, mais c'est vrai, c'est des images qu'on se fait sur... les fossés, ils sont ailleurs, ils se creusent sur des choses tellement... Par exemple... Pour moi, le mot manque de culture, c'est pas manquer de théâtre ou de livres, c'est manquer de plus, c'est ne plus savoir faire à manger ensemble, par exemple. Mm-hmm. Ça, pour moi, c'est un manque de culture. De plus savoir transformer une chose. Mm-hmm. D'être obligé de faire appel à quelqu'un d'autre pour transformer. Mm-hmm. Ça, pour moi, ça c'est des bons qui font qu'on est déclassé. tant que ça n'a pas à voir avec quelque chose de financier ou de...
Enfin, ça revient au sens vraiment fondamental de culture, la culture du sol, de la terre transformée.
Ah oui, ouais, voilà. Ouais.
Pour produire quelque chose.
Anouche et Marine, j'aimerais vous faire discuter ensemble, et vous discutez tellement bien, à partir du titre de vos textes présentés à Texte en cours en novembre dernier, c'est-à-dire aujourd'hui. Anouche, le titre de votre pièce est Usure au pluriel. Marine, c'est donc, comme je l'ai dit, reçu avec un E à la fin du mot. C'est une des pièces, des quatre pièces que nous avons entendues. Vivez-vous comme créatrice des usures? Et vous sentez-vous reçue par le biais de vos textes, auprès de qui, peut-être, vous destinez votre prise de parole?
Des usures. Anouk, qu'est-ce que tu entends? Comment tu comprends cette question? Anouche, pardon. Comment est-ce que tu entends cette question? Vivez-vous des usures?
Ah, déjà, c'est joli, vivez-vous des usures. Ouais. Avec un Z à usure, je vais peut-être y penser.
Des usures.
Dans la création, non? Enfin... L'usure dans le texte, là, c'est vraiment l'espèce de tension qu'il y a entre le temps et l'argent, le temps compté, le temps qu'on nous laisse, ce qui est lié au prêt, etc. Mais aussi l'usure, ah, il vaut plus rien à son âge, il vaut plus rien. Toutes les usures qui sont liées vraiment à la valeur, voilà, à la valeur prêtée par l'autre, pas la valeur intrinsèque de, enfin. Donc non, je crois que plus j'avance et plus je me sens neuve et je me permets des imperfections absolues et des choses, j'acquiers plus de liberté, au contraire. Je trouve que c'est presque le contraire, oui.
C'est drôle parce que moi en ce moment je fais que dire, je suis fatiguée, j'ai besoin de vacances. Il y a un peu ce truc, j'ai l'impression, pour moi c'est, j'aimerais avoir plus de temps pour écrire, de temps pour créer. Et c'est une contrainte aussi que je me suis donnée, mais enfin, ma vie s'est faite comme ça, et j'ai commencé par la philosophie, et je suis très épanouie là-dedans, et voilà, et j'ai donc deux vies, ce qui me laisse peu de temps, et comme je dis souvent, j'ai pas de vie de famille, donc j'ai encore ce temps-là qui me reste pour moi, et qui n'est pas consacré à d'autres comme des enfants. Mais c'est quelque chose que j'ai éprouvé pas mal avec d'autres jeunes femmes autour de moi, où on se met vraiment une espèce de pression incroyable, où on travaille beaucoup, il faut toujours être à la hauteur pour justement être bien reçu partout. Et donc, cette fatigue des jeunes femmes créatrices, surtout dans le théâtre, hein, je pense vraiment, qui travaillent énormément et toujours avec cette peur de pas être à la hauteur, de pas être bien accueillie, de pas être bien reçue, sans doute. Et c'est vrai que c'est une pression qu'on se met, nous, et dont on a du mal à se défaire. Enfin, nous, j'entends, c'est socialement. C'est social,
bien sûr. Parce que, bon, on ne nous voit pas, mais on a une grande différence d'âge. Je pourrais être la maman de Marine, je pense. Et du coup, je l'ai eu, cette pression. Et moi, en plus, j'ai eu l'enfant. Et oui, je l'ai eu. Je l'ai eu, cette pression. Et c'est pour ça que je parlais de légitimité. C'est que ce moment où tu lâches, où tu te dis, mais en fait, on te rend légitime parce qu'on t'édite, parce qu'on te fait. Je suis pas en haut de... Mais ça suffit. Et tu lâches. Carrément. Et tu te dis maintenant... Moi, je travaille énormément, mais parce que j'aime ça. Et que je me dis, j'ai pas le temps d'écrire. Mais en fait, j'ai le temps dans les interstices. Mais surtout,
c'est de lâcher
je
peu.
Lâche.
Carrément.
Parce que j'ai rien à... En fait, usure, ça parle un peu de ça. Ça parle un peu du temps, du vrai temps, de notre... Le problème, la chose du temps, de notre temps et du temps qui est partagé. Et c'est cette chose-là, prendre son temps, le temps de la vie qui est relativement bref, enfin, faut pas, je vais pas te, on va pas se lancer.
Ouais, c'est vrai.
Que vous faut-il pour écrire? Je ne parle pas de papier, d'un stylo, d'un téléphone, d'un ordinateur.
Quoi que ce soit, une question intéressante.
Ouais.
Qu'est-ce qui enclenche chez vous, pour vous seul, l'acte d'écrire?
La colère.
Tout à l'heure, on en a parlé toutes les deux ensemble. Ouais, ça peut être la colère ou le grand rire, hein, la blague, enfin le grand rire qui en découle quand une chose me paraît tellement, comment dire, là je fais des gestes
serrés,
un contraste quoi.
Un contraste. Une chose qui, ouais, des choses qui me. Alors là, en ce moment, c'est formidable. Là, on a tout ce qu'il faut. Enfin, je veux dire que ce soit au niveau politique, social, écologique, on peut se servir de partout.
Ça peut être très très drôle ce qu'on peut produire d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un sacré dysfonctionnement.
Ouais. Un peu. Et presque, je veux dire, la cohérence, moi je l'ai presque plus dans les textes que je lis, que dans, évidemment, heureusement qu'il y a tous ces gens qui écrivent autour de moi, j'ai hâte à lire ce que Marine écrit pour me réorganiser. Parce que.
Ouais. Quelque chose à ajouter, je vous vois pensive.
Ouais, non, enfin, c'est vrai que cette histoire de la colère, je trouve ça intéressant. Enfin, moi, c'est souvent un moteur pour écrire un texte. Il y a un endroit où, d'injustice ou de, ouais, de colère, quelque chose. C'est vraiment un moteur de l'écriture. Après, il faut le sublimer, il faut le transformer. Je regrette un petit peu d'avoir perdu le sens de l'humour. C'est pas tout à fait vrai, mais bon, voilà. Mon premier texte était drôle, je crois. Et j'aimerais retrouver un peu de légèreté. J'ai l'impression que je suis très en colère et que j'aimerais bien... voilà. Bon, mais je trouve ça super stimulant, la colère, pour l'écrire.
Ou la joie, l'immense joie qui va avec.
Oui, parce que j'écris que je crois quand même avec de l'amour pour mes personnages. C'est pas non plus.
Je rebondis sur la colère. Quel est votre type de colère? La colère froide? La colère chaude? Vous êtes dans l'immédiateté, donc la colère vous prend et l'envie de prendre la parole vient tout de suite? Ou alors est-ce que vous laissez cela mûrir en vous pour vous lancer dans l'écriture?
Moi, c'est immédiat. Je vais écrire tout de suite et après, peut-être plus tard, j'en ferai quelque chose ou pas. C'est pour ça que je peux avoir des textes en cours. Mais ça sera immédiat.
Ouais, moi aussi, je crois. Et je crois que c'est aussi pour répondre à mon incapacité de me mettre en colère. Je ne sais pas faire ça, donc j'écris pour expulser ma colère. Donc ça a besoin d'être fait assez vite. Et après, c'est retravaillé, bien sûr. Mais un endroit où c'est un jet qui permet de...
C'est comme pour remettre les choses à l'endroit aussi, la colère. À ce moment-là, dans l'écriture. Comme quelque chose qui serait absolument contraire à une chose vitale, qui détruirait le vital, et on a envie de le remettre dans de la vitalité. Enfin, je trouve que l'écriture produit ça un petit peu.
Et pour écrire, quand on vous passe commande, alors moi c'est une question, comment ça marche? Oh la question. C'est-à-dire, on vous passe une commande, mais est-ce que vous acceptez selon le sujet, ou vous dites oui à tout ce qui vous vient? Est-ce qu'il faut peut-être avoir le déclic pour vous lancer dans l'écriture de quelque chose qui vous est proposé et qui ne vient pas de vous?
Alors, moi j'ai une longue vie de commande, donc et c'est venu vraiment à un moment donné. Quand j'étais plus jeune, je disais oui à tout. D'abord parce que j'avais besoin de manger et que j'avais une enfant, j'avais besoin de... Enfin, c'est faut quand même
Il faut le dire.
On gagne son pain aussi. C'est pas, on n'est pas millionnaire en étant dramaturge ou écrivain. Mais voilà, il y avait cette chose-là. Et puis parce que ça me donnait des challenges. Parce que je me disais, mais ça, j'aurais jamais pensé écrire là-dessus. Donc de très grandes difficultés aussi. Parce que malgré tout, la commande, la personne attend quelque chose. Et donc, soit elle accepte la liberté pleine que tu prends, soit elle veut vraiment. Et dans ce cas-là, moi, je rends mon stylo et je dis, c'est bon, gardez. Ça m'est arrivé deux fois de dire, gardez l'argent, gardez, même si j'ai commencé à travailler, parce que de toute façon, on ne pourra pas travailler ensemble.
Marine?
Moi, j'ai parlé du travail avec Julien Bouffier, donc c'est la seule fois où j'ai travaillé sur une commande. Et donc c'était un aspect particulier parce qu'on était dans un travail d'écriture au jour le jour, au plateau, etc. Donc c'était plus facile comme ça, dans cette configuration-là. Mais c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant et un peu... Enfin, comme moi, j'ai l'habitude d'écrire à partir des choses qui, comme d'une nécessité interne, enfin voilà, des choses qui m'a... Je veux dire que cette nécessité-là vienne du dehors, voilà, ce doit être assez délicat.
Mais là, ta question tout à l'heure, Lionel, sur le mûrir, là, on est obligé de laisser mûrir. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois, j'ai dû, en me disant, mon Dieu, qu'est-ce que je veux... Maintenant, j'ai dit oui, qu'est-ce que je veux en faire? Et je laisse mûrir jusqu'à ce que ça vienne toucher un endroit. Carrément. À l'intérieur.
Pour que ça devienne une nécessité pour
voilà.
toi aussi.
Ouais.
Dans les 3 minutes qui nous restent...
On doit faire des gestes.
En quoi écrire vous a changé, Anouche et Marine?
Comme je t'ai dit, je ne peux pas dire que j'ai écrit depuis toujours, puisque j'ai appris qu'à 5 ans, mais je dessinais avant, et j'ai bien dû faire des traits dans l'air avec mes doigts et balbutier des choses avant. Donc, ça serait plus dans une évolution qu'un changement. Ce qui m'a changé, c'est quand des gens ont commencé à dire mes textes. Et là, oui, quand d'autres gens s'en sont emparés, quand j'ai beaucoup de textes jeunes publics, quand des enfants s'en emparent, ou que des gens se passent ma poésie... Alors là, oui, ça change. Ça m'apaise. Ça me donne peut-être plus de consistance. C'est bête, mais
ouais. Ouais, moi je dirais, enfin, cette histoire de la consistance, moi je dirais que j'ai trouvé une place. Et comme c'est une vraie question, et je pense que c'est une question qui traverse plein de parcours, etc., mais cette question de la place très, très inquiète et instable. En tout cas, dans l'écriture, je sais que là, je suis à ma place, j'y suis bien. Et c'est pas une question. Et c'est sans doute le seul endroit où c'est pas une question pour moi. Et c'est trop bien.
Et personne ne peut prendre cette. Mais je pense qu'aucun être humain peut prendre sa place, mais que quand, par l'écriture, c'est comme si on l'inscrit vraiment. Mmh. Et voilà, c'est. Oui, c'est une espèce de. Il y a une forme de petite plénitude. Ça veut pas dire que c'est sans danger ou sans. Mmh.
Ainsi s'achève ce fil du fer. Merci Stéphane pour l'enregistrement.
Merci.